Alors, je vous invite à trouver un passage aujourd'hui pour la suite de notre culte dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, le chapitre 3. Alors finalement, je vais rester dans le thème qui a été abordé hier avec les jeunes, donc le groupe de jeunes m'a fait demander de faire un thème sur la chronologie des événements de la fin des temps. Alors ce soir, on ne va pas se plonger trop dans la chronologie en tant que telle, mais plutôt développer le thème que j'ai abordé avec eux comme introduction à ce thème, c'est-à-dire non pas le quoi de ce que Dieu a révélé sur la fin des temps, mais plutôt le pourquoi cette révélation de la part de Dieu, pourquoi Dieu nous en parle et pourquoi cela devrait nous intéresser, pour quelles raisons Dieu a pris la peine de nous parler de ces choses. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 4. Alors moi, je vais vous lire ces versets, même si j'ai une petite mouche qui va entrer dans ma bouche. Je vais vous lire ces versets dans la version du Semeur. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs, et ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Donc, ce soir, on va regarder trois raisons pour lesquelles le Seigneur nous parle ces choses, nous révèle ces événements de la fin des temps. Donc, premièrement, pour que nous ne soyons pas découragés par de tels propos. Deuxièmement, pour que nous ne soyons pas trompés. Et troisièmement, pour que nous ne soyons pas surpris. Donc, Pierre dit: sachez que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs et qui tourneront votre foi en ridicule, en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Pierre dit qu'il veut développer chez les chrétiens une saine manière de penser. Alors déjà, c'est intéressant de voir ce que l'apôtre Pierre considère, et finalement, le Saint-Esprit à travers Pierre, comme une saine manière de penser. Finalement, donc, on se rend compte que Pierre fait un lien entre une saine manière de penser et l'enseignement des prophètes et des apôtres que nous avons reçus. Il dit « Je vous écris » et je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles des saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Pierre dit : ce qui va vous aider à voir un sain raisonnement, une saine manière de penser, c'est de vous rappeler et donc de vous baser sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, donc l'enseignement biblique. Il dit, nous en avons besoin si nous voulons construire une pensée qui est saine. L'apôtre Paul va dire à peu près la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 2. Les sept premiers versets de ce chapitre, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 7, où lui, il dit aux Corinthiens, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, faut savoir que la ville de Corinthe à l'époque était connue comme un centre, comme un endroit où il y avait beaucoup de personnes riches qui cherchaient à démontrer leur richesse en faisant venir chez eux toutes sortes de philosophes. Et donc, c'était une ville qui était connue pour sa pensée, pour ses discoureurs, pour toute cette culture. Paul dit, par contre, moi j'ai préféré rester simplement fondé dans le message des saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Finalement, le monde n'a pas trop changé depuis. Ces attitudes-là impressionnent peu le monde. Mais Paul dit, j'étais pas là pour impressionner, pour faire du spectacle. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc finalement, on voit que Paul dit aussi aux Corinthiens, ce n'est pas la sagesse des hommes qui va vous permettre d'avoir une pensée saine, avoir une manière de penser saine, c'est en fondant votre attitude, vos avis, votre manière de penser sur la puissance de Dieu et sur la parole de Dieu de Jésus-Christ crucifié. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduites à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Donc, on dit ce qui compte, si on veut vraiment avoir une pensée saine, c'est de ne pas s'inquiéter de la soi-disant sagesse de ce monde, c'est vraiment de se fonder sur cet enseignement des prophètes et des apôtres que nous avons reçu. C'est donc, dit-il, ce message-là qui va vous aider. Si vous vous basez là-dessus, vous allez pouvoir être fidèle à Dieu, vous allez pouvoir être bien posé dans votre vie, et vous aurez une manière de penser qui est saine. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5, lorsqu'il parle justement à l'Église des choses de la fin, il leur dit, « Je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? Est-ce que vous avez oublié ce que je vous ai enseigné? Est-ce que vous avez oublié cette sagesse de Dieu que j'ai enseignée, cette parole reçue de la part de Dieu, cette parole qui est le fruit du ministère des prophètes et du Seigneur et Sauveur que je vous ai communiqué? » Il est donc important qu'on se rappelle ce que nous ont dit les prophètes et les apôtres, donc qu'on se rappelle de cette parole que nous avons dans la Bible. C'est donc important de se rappeler de ce que Dieu a dit au sujet de la fin des temps, ce que Dieu a dit au sujet du retour de Jésus, plutôt que d'écouter toutes sortes d'idées d'hommes qui peuvent circuler. C'est important de se rappeler, dit Paul, ce que nous avons entendu, et Pierre le dit également. Important de se le rappeler parce que souvent nous avons tendance à être oublieux. On l'entend, on dit « Ah bah oui, c'est comme ça ». Mais après, dans le courant de la vie, très vite on oublie. Ou plutôt, on permet à ce que Dieu a dit d'être caché par plein d'autres éléments, plein d'autres voix, plein d'autres messages qui viennent de l'extérieur et qui finalement font de sorte que nous oublions un petit peu ce que Dieu nous a dit. Nous vivons dans un monde, dit Pierre, qui cherche à nier cette réalité. Si on lit la suite de ce passage dans 2 Pierre, chapitre 3, donc il va dire dans le verset 5, « Ces hommes-là veulent ignorer ou ils veulent oublier, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Pierre dit, il est important, lorsqu'on entend toutes ces autres voix autour de nous, de se rappeler ce que Dieu a dit, pour ne pas laisser ces autres voix nous décourager, miner notre foi dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu va faire, et dans ce que Dieu a planifié. Il y a plein de voix qui nous feraient oublier très facilement que Dieu est souverain, que Dieu est en contrôle, que Dieu a déjà révélé ses plans et que Dieu va les accomplir. Il parle ici de moqueurs qui disent « Oh, mais tout ça, ce sont des histoires. » Puisque nous voyons que rien n'a changé dans le monde. Bon, lui, il parle à son époque de gens qui parlent depuis le commencement. Donc, rien n'a changé. Maintenant, les gens qui diraient, ça fait des milliards d'années et Dieu n'est pas intervenu. Pierre dit, ces gens veulent exprès oublier ou ignorer le fait que Dieu est déjà intervenu dans l'histoire de ce monde. Qu'il a déjà basculé la réalité de notre planète lorsqu'il est intervenu par le jugement à l'époque de Noé. Parce que, comme ça, on peut plus facilement nier le fait que Dieu existe, que Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur la terre, et que Dieu va intervenir à nouveau sur la terre au moment qu'il a prévu de le faire. Mais si on ne se rappelle pas régulièrement ce que Dieu dit, facilement ces autres voix commence à miner notre foi et on commence à vivre une autre réalité que la réalité que Dieu a révélée. D'autres vont dire que donc, puisque il n'y a pas de Dieu, puisque il n'y a que cette réalité qu'on voit, cette réalité dont nous sommes responsables, on ne sait pas où va aller le monde, on ne sait pas ce qui va arriver à la planète Terre parce que l'homme fait ceci et l'homme fait cela. Mais Dieu dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, ce n'est pas entre les mains des hommes. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais Dieu réserve ce monde. Ce monde ne prendra pas fin, ne disparaîtra pas tant que Dieu n'est pas prêt à accomplir la fin que lui il a prévue. Donc nous pouvons avoir cette assurance que au-dessus de tout, Dieu est souverain et Dieu réserve cette planète pour la fin que lui a déjà annoncée. Finalement, c'est vrai pour toute la parole de Dieu. Si on ne se rappelle pas ce que Dieu a dit, très facilement, on perd de vue cette réalité. Il y a d'autres choses qui viennent influencer notre manière de penser et très facilement, on s'éloigne de la réalité que Dieu a dit et on se trouve bousculé par plein d'idées, par plein de craintes. Et on oublie que Dieu est en contrôle. Et donc, il nous faut garder sa parole bien placée, bien en haut, au premier rang de notre mémoire, pour que l'incrédulité du monde, qui ne croit pas en Dieu et en ce que Dieu a dit, qui cherche à imposer une autre réalité, d'autres croyances sur nous, ne prenne le dessus. C'est uniquement en remplaçant ces pensées par la parole de Dieu que nous pouvons rester fidèles et garder l'optique que Dieu désire, connaît. Donc Pierre nous donne ce conseil de nous souvenir des paroles dites autrefois par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur que les apôtres nous ont transmis pour ne pas être découragé, ne pas douter de la souveraineté de Dieu et du fait que ses projets vont bel et bien se réaliser. Mais finalement, le monde moqueur, le monde incrédule autour de nous n'est pas le seul danger contre lequel on a besoin d'être armé, contre lequel les apôtres nous mettent en garde, et qui pourrait nous troubler dans notre compréhension de ce que nous dit le Seigneur. Dieu nous révèle également ses projets pour que nous ne soyons pas trompés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 5, nous disent: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, Paul met la lumière sur un autre risque, un autre danger, autre source de problème. Il dit, d'un côté, il y a les incrédules que Pierre a soulignés, mais d'autre côté, il dit, on peut facilement se faire dévier de la vérité par des choses qui viennent de l'intérieur de l'Église, qui sont soit par une soi-disant inspiration, donc quelqu'un qui dirait « Dieu m'a donné une révélation autre que ce que sachent les autres », c'est une révélation qui dit autre chose que ce qu'il a révélé jusque-là, soit donc par une parole, soit même par une lettre qui semblerait venir de la part des apôtres. Il dit, si vous rencontrez ces choses-là, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Finalement, on retrouve la même pensée que Pierre qui avait dit, je fais appel à votre saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement de la parole L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas ébranler de cette bonne manière, cette manière saine de penser, même si c'est soi-disant par une révélation ou par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, qui dirait autre chose que ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui colle avec la parole de Dieu. Clairement, l'église de Thessalonique était troublée par des personnes qui cherchaient à leur dire « Mais ce n'est plus la peine d'attendre le retour du Seigneur Jésus. Il est déjà venu. Donc, c'est vain d'attendre encore qu'il revienne. » Il dit « Ne pensez pas que ce soit le cas. Réfléchissez par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu de la part des prophètes et des apôtres, et ne laissez pas ces soi-disant révélations vous troubler. » Donc verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Alors la Bible laisse plein de choses ouvertes où il y a des choses dont Dieu ne nous parle pas. Mais Paul dit, pensez à tout ce que Dieu vous a déjà dit. Vous savez que certaines conditions doivent être remplies pour que Jésus soit revenu. Si vous ne voyez pas ces choses, donc vous savez que quoi qu'on dise, même si on fait dire qu'ils ont eu une révélation comme quoi c'est autrement, vous savez que la réalité ne ira pas à l'encontre de la parole de Dieu, ce sera comme Dieu l'a dit. Donc ne vous souvenez-vous pas de que ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Donc à nouveau, rappelez-vous la parole que vous avez reçue, que Dieu vous a révélée, et ayez une pensée saine qui est fondée là-dedans, qui ne va pas tomber donc dans le piège de croire, même si on dit que ça vient de Dieu, même si on dit que le Saint-Esprit a donné une révélation supplémentaire. Sachez que tout se fera comme il se trouve dans la Bible. Aujourd'hui encore, il existe toutes sortes de théories concernant la fin des temps, concernant le retour de Jésus. Alors certes, certaines de ces théories sont complètement loufoques, d'autres sont tout à fait plausibles et bien réfléchies, bien argumentées, soit pour dire que Jésus est déjà revenu en personne ou que Jésus est déjà revenu spirituellement, et donc ce n'est plus la peine de l'attendre. Ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens resterait pour nous. Donc encore aujourd'hui, on voit que toutes les conditions, si vous regardez les éléments dans la Bible concernant la fin des temps, on sait que Jésus n'a pas pu venir et qu'on l'a raté, mais que on doit encore vivre dans cette expectative, cette attente de son retour. Soit donc, certains construisent de théories bien élaborées concernant le qui, le où, le quand du retour de Jésus qui ne correspondent pas à ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Jésus et les apôtres nous mettent à plusieurs reprises en garde contre le fait de nous laisser troubler par ces théories, par ces même soi-disant visions, révélations, inspirations. Dans Luc chapitre 21, versets 8 et 9, Jésus leur dit « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi, le Messie !» Ou encore « Le temps est venu !» Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Et là, on a vu Paul, donc, qui disait, ne vous laissez pas séduire, vous laissez pas tromper, tant que les conditions que nous voyons dans la parole de Dieu ne soient pas accomplies. C'était un message donc qui était clairement pertinent, percutant à l'époque du Nouveau Testament. Jésus et les apôtres avaient peur que les chrétiens risquent de se laisser induire en erreur par certaines de ces théories. Aujourd'hui encore, ce message reste tout aussi percutant, tout aussi pertinent, parce que avec Internet, on peut maintenant entendre toutes sortes de choses. Si on cherche nos informations, premièrement sur Internet, on risque de tomber sur tout et n'importe quoi qui peut avoir l'air très chrétien. Quand j'étais en train justement de préparer pour les jeunes cette semaine, j'ai regardé sur Internet, on trouve de tout. Des sites qui vont vous argumenter que Jésus est déjà venu et qui ont l'air tout à fait chrétien, qui ressemblent absolument à n'importe quel site évangélique, pentecôtiste, qui vont raconter tout et n'importe quoi. On a besoin donc de bien connaître la parole de Dieu pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, quel que soit l'apparence. Nous, notre fondement doit être ce message, les paroles dites autrefois par les saints prophètes, par Jésus lui-même et les apôtres, et qui nous ont transmis ce qu'il a dit, et ne pas nous laisser troubler, ne pas être trompés par ces autres messages, surtout concernant les fins des temps qui ont l'air de bien inspirer les gens, puisque finalement c'est beaucoup plus facile de raconter tout et n'importe quoi au sujet du futur que au sujet de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on peut vérifier. Ce qui n'est pas encore, on peut dire que voilà ce qui va se passer. On n'a aucun moyen objectif pour vérifier. Si ce n'est, est-ce que ça correspond à ce que Dieu nous a révélé? Donc notre meilleur antidote à tout cela, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu sans rien ajouter. C'est vrai tant bon, parce que parfois, on aimerait bien que Dieu nous ait dit plus sur certains éléments, et à cette curiosité dans notre chair qui aimerait que tous les détails que Dieu n'a pas donnés aient réponse. Et donc, on aimerait bien parfois ajouter des choses, mais nous, on doit rester fidèle à ce que Dieu a dit, ne pas aller au-delà, ne pas dire plus que ce que Dieu nous a dit, ni, et bien évidemment, rien enlever. Sachant que Dieu nous a dit peut-être pas ce qui va satisfaire pleinement notre curiosité, mais il nous a révélé ce qui va nous être utile pour accomplir les projets que lui, il a. Et justement, peut-être le projet principal de Dieu, en nous parlant de cette manière des choses à venir dans la Bible, c'est pour que nous ne soyons pas surpris. La Bible souligne bien qu'une des choses principales que Dieu ne va pas nous dire, et c'est là où justement de nos jours on a vraiment besoin de faire attention à tous ces messages soi-disant inspirés par l'Esprit, il ne va pas nous révéler le moment du retour de Jésus à l'avance et nous dire « voilà, ça va être tel jour, à tel moment. » Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 39, nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Même s'il dit qu'il a reçu cela par le Saint-Esprit. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parfois on dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à manger et à boire, à se marier? Ben, il n'est pas en train de dire que là, c'était le péché de ces gens à cette époque. Il dit simplement, ben, les gens qui ne voulaient pas entendre le message de Dieu prêché par Noé, ben, ils n'étaient pas prêts pour le jour où le jugement est venu. Ils ont continué leur vie tranquillement, normalement, en faisant ce que nous faisons tous les jours, jusqu'au jour où ils ont été surpris par le jugement de Dieu et ils n'étaient pas prêts. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, Jésus dit « Voici, je viens comme un voleur. » Drôle d'expression, n'est-ce pas, dans la bouche de Jésus ? Je viens comme un voleur. Qu'est-ce qu'il voulait bien dire par cela? Ben, on trouve la clé dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 40 jusqu'au verset, 24, je crois. Où est-ce que j'avais noté? Voilà, oui. Donc, sachez-le, c'est dans le verset, là on va commencer dans le verset 42 peut-être. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Pour ça que Jésus dit dans Apocalypse, voici, je viens comme un voleur. Il veut dire, je viens sans prévenir à l'avance. Il dit, quelqu'un qui sait quand le voleur va passer, si vous avez un avertissement, vous savez vous préparer. Parfois, quand on arrive à la près des frontières, vous voyez parfois des camionnettes de la douane qui sont là, qui sont garées, et tu te dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis bon, tu vois qu'ils ne s'intéressent pas du tout à vous. Ils ont leurs jumelles fixées plus loin. Et finalement, ils attendent quelqu'un parce qu'ils savent que quelqu'un risque de passer par là. Quelqu'un leur a dit, un tel va passer tel jour par cet endroit. Et donc, ils sont prêts. Jésus dit, le voleur. S'il est malin, s'il est intelligent, il n'annonce pas à l'avance qu'il va venir. Le voleur, il ne va pas vous envoyer un petit message pour dire « Ça serait bien sympathique si vous me laissiez votre maison ouverte tel jour à telle heure, comme ça je peux venir tranquillement vous voler. » Si vous saviez à l'avance qu'il allait venir, tout serait prêt pour bien l'accueillir. Le voleur, il joue sur le fait que vous n'êtes pas au courant, que vous ne l'attendiez pas. Jésus dit, moi, je vais venir comme un voleur au moment où vous n'avez pas d'avertissement à l'avance pour vous dire, voilà, c'est tel jour à telle heure. Je vais venir au moment où vous ne le saurez pas, où vous ne l'attendriez pas et où donc vous pourrez être surpris. Mais, donc, quand il dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas », Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc Paul dit, ce n'est pas la peine, et vous le savez très bien, de me poser la question, c'est pour quand? Quel est le moment? Parce que vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, de manière inattendue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous avez suffisamment d'éléments pour être prêts. Certes, vous ne savez pas quel jour ce sera. Certes, vous ne savez pas à quel moment il va venir, mais vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas être pris au dépourvu et dire, oh ben mince alors, si j'avais su, j'aurais été prêt. La Bible nous dit, pas besoin de vous écrire au sujet des temps et des moments parce que vous savez que personne ne le sait. Par contre, vous savez que vous pouvez être prêt sans avoir à vous faire des soucis de quand est-ce que ce sera. Il suffit simplement de toujours être prêt. Il suffit de vivre de manière à être prêt. C'est d'ailleurs l'objectif aussi des paraboles de Jésus, les paraboles des vierges, où donc il parle de ces cinq vierges sages et les cinq vierges folles, les unes qui sont dit « Oh, on aura bien le temps de se ravitailler avant que l'époux vienne, on n'a pas besoin de s'inquiéter » et qui ont été surprises. Et puis les cinq sages qui étaient déjà prêts, ils se sont dit « Bah, on ne sait pas quand il va venir ». Donc, on va s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut tout de suite et on va être prêt comme ça. On n'a pas besoin de se poser la question quand est-ce qu'il va revenir parce qu'on sera prêt. C'est aussi le message du parabole du mauvais serviteur où il dit ce mauvais serviteur disait en lui-même « Oh, mon Seigneur tarde à revenir. J'ai donc tout mon temps pour profiter bien de la vie et puis arranger les choses à la fin. » Nous avons certes dans la Bible suffisamment d'éléments, on a vu, pour reconnaître des fausses annonces du retour du Seigneur. Mais la Bible nous dit bien, le seul moyen d'être sûr, d'être prêt, de ne pas être surpris, c'est de se rappeler ce que Dieu nous a dit, de se rappeler que Dieu nous a dit qu'il viendra à un moment où on ne l'attend pas, où on n'a pas eu d'avertissement au préalable, mais où finalement, peu importe, on ne sera toujours pas surpris, dépourvu, parce qu'on va être prêt. Donc il nous dit, je ne vous dis pas quand ce sera. Ce soir, je ne vais pas vous dire... J'ai reçu une révélation comme quoi c'est ce soir, ou c'est demain, ou c'est après-demain, ou c'est tel jour. Par contre, Dieu nous dit, alors soyons prêts comme si c'était ce soir, comme si c'était demain, comme si c'était très, très bientôt, parce qu'on ne le sait pas. Et on ne veut pas être surpris. On ne veut pas être pris au dépourvu le moment où le Seigneur reviendra. Et donc, on a besoin de toujours être prêt. Dieu nous a donné ce qui est essentiel, mais il n'a pas voulu tout donner. Peut-être parce qu'il nous connaît. S'il nous avait dit, ah ben, vous inquiétez pas, ça va être dans 10 ans. Le risque, c'est que justement, comme le mauvais serviteur, on se dit, ah ben, ça va, alors j'ai 10 ans pour bien profiter. Et puis dans 9 ans et 9 mois, je peux bien arranger les choses. et là, ce sera bon pour la fin. Vous savez quoi? Je ne vais pas vous dire. C'est comme si vous saviez que vous deviez vous faire inspecter, mais vous ne saviez pas quand. Et donc, vous dites, ah bah, il va falloir que tout soit tout le temps au top, parce que je pourrais me faire contrôler, je pourrais me faire inspecter, mais je ne sais pas quand ça va me tomber dessus. Donc, je ne pourrais pas me préparer au dernier moment. Du coup, je vais faire de sorte à ce que je sois prêt aujourd'hui. Comme ça, si c'est aujourd'hui, je suis prêt. Si c'est demain, je suis prêt. Si c'est dans quelques mois, je suis prêt. Peu importe. Dieu nous a donné ce qui est utile. Ce qui est utile, donc, pour ne pas être découragé, pour être armé, pour que lorsqu'on se moque de la foi et du message de la Bible, nous, on peut se dire, bah, écoutez, ce n'était pas Noé à la fin qui avait l'air ridicule le jour où la pluie est venue. Ce ne serait pas moi qui aura l'air ridicule ce jour-là. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais que Jésus va revenir. Et donc, je vais être prêt. Il nous a donné ce qui est utile pour qu'on ne soit pas trompé, pour que toutes sortes de faux prophètes ne puissent pas nous tirer par le bout du nez n'importe où et nous rendre ridicules en nous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. Il nous a donné ce qui est utile pour nous aider à vivre de la meilleure manière possible, de vivre de manière à avoir une vie chrétienne brûlante en tout temps, avoir une vie chrétienne en règle en tout temps, à être rempli en tout temps du Saint-Esprit, parce qu'on se dit, il se peut que ce soit aujourd'hui. Et moi, je veux être prêt. Donc, on n'a pas besoin de développer un intérêt malsain pour les choses de la fin, où on devient obsédé par ces choses et on ne pense qu'à ça, on ne parle que de cela. Et que bah finalement cela nous pousserait plutôt à chercher, à savoir, à fouiller pour trouver ce que Dieu nous a caché. Par contre, rappelons-nous régulièrement ce que Dieu nous a révélé. Rappelons-nous régulièrement les éléments qu'il nous a donnés, sachant que ce qu'il nous a révélé, ce qu'il nous a donné est utile pour nous, pour qu'on ne soit pas découragé, pour qu'on ne soit pas trompé, pour qu'on ne soit pas surpris surtout par son retour. Vous n'êtes pas des ténèbres pour être surpris comme vont être ceux qui disent « Oh bah, tout cela, ce n'est que des histoires. Depuis que le monde est monde, rien n'a changé dans le monde. » Nous serons prêts pour le retour du Seigneur, sachant que son retour est garanti, que son retour est sûr et qu'il va revenir pour chercher son Église, pour établir son règne et pour établir son royaume éternel. Donc, prenons la peine quand même de lire la parole, d'étudier la parole, d'apprendre ce que le Seigneur a à nous dire, et puis tirons-en les bonnes conclusions. Soyons prêts pour le retour du Seigneur.